BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On entame cette deuxième heure de BFM Patrimoine en jetant un œil sur toute l'actualité économique avec Faiza Younsi.
BFM Business, l'info éco, Faiza Younsi.
Le bras de fer se poursuit sur la réforme des retraites avec cette dixième journée de mobilisation aujourd'hui. La CFDT et la CGT appellent ce matin une médiation pour tenter de trouver une voie de sortie à la crise sociale. Du côté des manifestations, 150 rassemblements sont prévus partout en France, des manifestations qui ont un impact sur l'activité des commerces selon les données de l'Alliance du Commerce, avec une baisse de chiffre d'affaires de quasiment 20%, voire 30% à Marseille ou Toulouse. Nous en parlerons ce soir avec Olivia Grégoire, la ministre chargée des PME du commerce et du tourisme. Elle sera l'invitée de la grande interview d'Edwige Chevrillon. Ce sera à suivre à 19h30. Les comptes publics moins dégradés que prévus en 2022, c'est confirmé par l'INSEE qui a publié les chiffres clés ce matin. Le déficit public est finalement sous le seuil des 5%. Il recule à 4,7% du PIB contre 6,5% en 2021. La dette est ramenée à 111,6% du PIB après quasiment 113% l'année précédente. Tout cela grâce à de meilleures rentrées fiscales que prévues. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a salué la résilience de l'économie française. Mais la dette et le déficit public restent très supérieurs à leur niveau d'avant-crise sanitaire en 2019. La France reste parmi les nations les plus innovantes d'après le classement 2022 de l'Office européen des brevets. Le pays se classe deuxième en Europe, derrière l'Allemagne, avec 10 900 dossiers déposés, un chiffre en progression de 2%. Cinquième pays dans le monde. En Europe, ces demandes de brevets ont battu des records l'an dernier. Les secteurs les plus dynamiques sont les technologies du numérique et les énergies propres. C'est aujourd'hui que l'accord sur la fin de la vente des véhicules thermique en Europe pour 2035 doit être formellement adopté à Bruxelles. Après 3 semaines de blocage, la Commission européenne et l'Allemagne ont finalement trouvé un terrain d'entente en ouvrant la porte aux carburants de synthèse. Ce texte est à l'ordre du jour de la réunion des ministres européens de l'énergie. Et ça se confirme, les exportations de pétrole russe vers l'Inde explosent. D'après Moscou, elles ont été multipliées par 22 l'an dernier. En fin d'année dernière, l'Inde est devenue le tout premier importateur de pétrole russe, conséquence de la guerre en Ukraine et des sanctions des pays occidentaux. Et on termine avec cette méga acquisition dans le secteur de l'énergie. Le britannique BP et l'émirati ADNOC veulent racheter 50% de NewBed Energy. Ce groupe gazier israélien confirme avoir reçu une offre d'achat de 4 milliards de dollars.
Merci beaucoup Faiza Younsi pour l'actualité éco chaque heure sur l'antenne de BFM Business. Nous tout de suite on se connecte au marché actions.
BFM Patrimoine. L'émission 100% placement sur BFM Business.
Sarah Thirion nous attend chez TP ICAP. Bonjour Sarah.
Bonjour Cédric.
Comment lire ce marché ce matin? On a l'impression que les 7100 points cristallisent un petit peu toutes les attentions.
On est en lévitation. Il n'y a pas eu de catastrophe bancaire additionnelle pendant le week-end. On a des politiques et des régulateurs qui continuent d'assurer que tout va bien. Et que si toutefois ça n'allait pas, effectivement, il serait là pour faire le nécessaire. C'est plutôt rassurant. Le vice-président de la Fed va s'exprimer aujourd'hui et donc rappeler que les institutions feront le nécessaire, le cas échéant, pour garantir les dépôts dans le pays. Tout ça est plutôt rassurant, quand bien même, en fait, on voit les témoins du resserrement des conditions de crédit. Vous avez vu la croissance des prêts aux entreprises dans la zone euro ou encore, effectivement, celle du crédit aux ménages a ralenti le mois dernier, selon les données de la Banque Centrale Européenne. Et aux États-Unis, en fait, on a Philip Jefferson, qui est un des gouverneurs de la Fed, qui a prévenu que le stress bancaire en cours pourrait affecter les petites entreprises qui sont très dépendantes des banques régionales. Pour l'instant, on s'accroche quand même à l'idée la Fed puisse ralentir peut-être le rythme de normalisation, bien que certains brokers anglo-saxons contredisent l'idée que effectivement elle fasse marche arrière sur les taux. Et on en saura davantage en fait possiblement en fin de semaine, puisqu'on va avoir des indicateurs d'inflation à la fois en zone euro et aux États-Unis qui permettront peut-être effectivement aux banques centrales ou non de temporiser un peu ce mouvement. En tout état de cause, aujourd'hui, on a effectivement des secteurs comme le oil ou le basic resources qui repartent à la hausse et qui permettent effectivement au marché de tenir. On a malheureusement des valeurs de croissance qui étaient bien portantes hier, qui souffrent de la remontée des rendements obligataires américains qui ont qui a plombé hier le Nasdaq et ce qui se prolonge aujourd'hui en Europe sur ces valeurs-là, à l'exception effectivement du secteur du luxe qui sort toujours la tête haute et qui se porte bien encore aujourd'hui. Et puis on a le secteur real estate qui reste évidemment en souffrance. On aura cet après-midi des indicateurs aux États-Unis sur ce sujet avec l'indice Case-Shiller des prix immobiliers de janvier et on verra effectivement si on finit par voir la trace dans le secteur immobilier américain de cette remontée des taux qui devient évidemment pénalisante. Pas de news majeure sur le front des valeurs. On a quand même Alstom qui progresse de quasiment 1,5% sur un contrat de signalisation qui a été remporté pour le métro de Hong Kong. Et donc le titre qui figure parmi sur le podium en tout cas des valeurs du CAC 40 ce matin.
Merci beaucoup Sarah Thirion, Tipeee ICAP qui nous accompagne chaque mardi matin à 11h pour regarder comment se déroule cette séance parisienne. Le CAC 40, je vous le disais, qui pour le moment s'appuie sur les 7100 points, 7105 points, on reste dans le vert.
BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé.
Regard croisé qui accueille ce matin Régis Béguet en plateau pour Lazard Frères Gestion. Bonjour Régis.
Bonjour Cédric.
Et en duplex depuis JP Morgan Asset Management, Vincent Juvins. Bonjour Vincent.
Bonjour Cédric, bonjour Régis.
Désolé
bonjour
de ne pas pouvoir vous accueillir en plateau. Le mouvement de grève n'y est pas pour rien. Évidemment, il ne simplifie pas les déplacements entre la Belgique et la France. Donc on est quand même ravis de vous avoir en duplex, Vincent. On va commencer avec le gros thème qui fait un peu jaser tout le monde, nos banques bien sûr. Est-ce qu'on peut imaginer, Régis, qu'il y a un vrai problème bancaire ?
Non, je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a un vrai problème bancaire à l'échelle mondiale tel que nous avons pu le connaître en 2007-2008 ou encore en 2011 ou même au plus fort de la crise Covid en 2020. En réalité, il n'y en avait pas, mais il y a eu une perception à un moment donné, une crainte que effectivement l'arrêt brutal de l'économie rejaillisse sur les banques. Je pense que nous ne sommes dans aucune de ces situations-là. Nous avons eu une remontée très rapide des taux d'intérêt qui a entraîné dans certaines petites banques américaines un problème d'inadéquation entre les dépôts qui sont, comme chacun sait, à extrêmement court terme et le crédit qui est à plus long terme, en particulier le crédit vers
le private. On rappelle quand même que ces petites banques, enfin ces banques régionales américaines, elles sont quand même assez importantes, notamment sur le crédit, parce qu'elles représentent grosso modo 50% des prêts commerciaux et industriels aux États-Unis, 60% des prêts immobiliers résidentiels, 80% des prêts immobiliers commerciaux et 45% des prêts à la consommation. Alors c'est pas
bien
totalement
entendu,
anodin.
C'est pas du tout anodin. Il s'agit pas de dire que une série de faillites bancaires aux États-Unis serait tout à fait neutre pour l'économie. Il se trouve que dans les deux ou trois cas qui sont apparus aux États-Unis, qui sont en réalité quatre, on dit deux ou trois, en réalité il y en a quatre, mais il y avait vraiment une très forte inadéquation entre la duration des dépôts et la duration du crédit. Quand effectivement les dépôts se sont retirés massivement pour aller vers des produits plus rémunérateurs, on s'est trouvé face à un squeeze. C'est un risque qu'on connaît, qu'on anticipe depuis longtemps, en particulier pour l'assurance. Le point qui est très important aujourd'hui, c'est que l'assurance est tout à fait préservée dans la crise qui vient de nous occuper. Et ça, c'est quand même très fondamental pour l'effet
de. Ce ne sont pas les valeurs financières.
Ensuite, effectivement, cet événement, qui n'est pas un petit événement, ce qui est quand même un grand événement aux États-Unis, mais qui a été assez rapidement circonscrit par les autorités, par la Fed en particulier, et par la solidarité des autres grandes banques aux États-Unis. On peut saluer JP Morgan, d'ailleurs, à ce sujet. L'événement a été suffisamment important pour fragiliser un colosse au pied d'argile qui était Crédit Suisse, qui était dans de grandes incertitudes stratégiques depuis plusieurs années. Mais là aussi, je dirais que les autorités ont très bien réagi par rapport à ce que nous avions pu connaître par le passé, c'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, le problème Crédit Suisse a été réglé. Et ensuite, je termine juste, ce qui est vraiment très très important et très différent de ce que nous avons pu connaître par le passé, c'est qu'aujourd'hui les financements interbancaires sont extrêmement limités, bien que encore une fois les grandes banques américaines se soient remises dans le financement interbancaire pour aider les plus petites, mais globalement le financement interbancaire passe par la centralisation des banques centrales, comme leur nom l'indique. Mmh. Et ça, c'est très très important pour l'effet, pour limiter l'effet domino de la crise bancaire.
Voilà donc la vision proposée par Régis Béguet chez Lazard Frères Gestion. Vincent Juvin, c'est vrai que en tant que banque américaine, finalement, vous avez été presque aux premières loges pour regarder, pour inspecter un petit peu tout ça. Est-ce qu'il y a un problème bancaire aujourd'hui?
Alors certainement, je pense que le seul parallèle qu'on puisse faire qui ait du sens aujourd'hui, c'est comme Régis vient de le faire, c'est d'essayer de tenter en tout cas de faire des points de comparaison entre la situation actuelle et la situation de 2007-2008. Donc en aucun cas la situation est similaire. Je pense pas qu'il y a de problème bancaire dans son ensemble. D'ailleurs, les marchés font assez bien la différence entre les acteurs qui ont été en difficulté ces dernières semaines et les autres, même si on teste les mailles faible du secteur bancaire sur les marchés actuellement, et on l'a vu encore la semaine dernière. Dans son ensemble, je vois que le marché finalement demeure, malgré la baisse des cours de bourse des institutions financières de part et d'autre de l'Atlantique, mais enfin relativement confiant dans la solvabilité, dans les fondamentaux du secteur bancaire, puisqu'on a vu que finalement les crédits default swap n'ont monté que pour certaines institutions, pour le reste c'est resté relativement stable. La différence par rapport à 2007-2008, je pense que Régis en a mentionné un certain nombre, je dirais qu'on avait tout d'abord un problème fondamental économique sous-jacent, avec beaucoup d'excès économiques. Rappelez-vous à l'époque l'endettement des ménages, surtout aux États-Unis, l'endettement aussi via des prêts qui n'étaient pas adaptés. Rappelez-vous notamment des prêts à taux variables pour des emprunts immobiliers. On avait une envolée des prêts immobiliers, des emprunts à taux variables qui ont évidemment fort souffert de l'augmentation des taux, un problème de solvabilité des ménages et leur prêt hypothécaire, qui s'est évidemment transmis à l'ensemble de la chaîne financière et au secteur financier. C'était un problème de fondamentaux du secteur, enfin de l'économie et du secteur financier en 2007-2008. Cette fois-ci, c'est un problème de mismatch en termes de duration, comme l'a évoqué Régis, mais c'est pas un problème de détérioration des actifs sous-jacents. Alors, on a vu une fuite des dépôts aux États-Unis, notamment de dépôts qui quittent les banques pour aller sur les fonds monétaires. Il s'agit là pas d'une manque de confiance des épargnants vis-à-vis du secteur bancaire, il s'agit simplement finalement de chercher du rendement, les fonds monétaires offrant un meilleur rendement que les dépôts à court terme au niveau des banques. Il est d'ailleurs rassurant par rapport à ces mêmes fonds monétaires de voir que eux aussi aujourd'hui font partie de la solution plutôt que du problème. Rappelons-nous 2007-2008, les fonds monétaires eux-mêmes avaient été dans la tourmente, ce qui fait que les dépôts sortant des institutions financières ne sont pas rentrés directement dans les fonds monétaires. Il faut savoir que les fonds monétaires sont également une source de financement à court terme pour le secteur bancaire, et donc les banques ont été pénalisées des deux côtés, je dirais, en 2007-2008, ce qui n'est pas le cas actuellement. On voit d'ailleurs peu de tensions sur les marchés monétaires actuellement, des éléments comme le LIBOR ou l'Euribor finalement ne traduisent pas de tensions sur les marchés monétaires, ce qui montre que finalement en termes d'accès à des capitaux, le secteur bancaire est toujours finalement relativement sécurisé de ce point de vue-là. Ma seule inquiétude dans ce contexte actuel, c'est pas tellement de revivre une crise bancaire, encore une fois, les fondamentaux des banques ne le justifient pas, et certainement pas en Europe où la régulation a été sensiblement renforcée, où les capitaux propres ont été sensiblement renforcés, où la rentabilité des banques est vraiment au rendez-vous. On a un rendement sur fonds propres qui est au plus haut depuis 10 ans, et finalement un environnement de taux d'intérêt qui leur est favorable. Ma crainte, c'est que, évidemment, cette situation invite les banques à plus de prudence dans la manière dont elles allouent des prêts à l'économie. Alors, on a évoqué le cas, vous avez, Cédric, évoqué l'importance des petites banques aux États-Unis dans la fourniture de prêts à l'économie. Il faut tout de même se rappeler qu'aux États-Unis, le secteur bancaire dans son ensemble, finalement, finance un tiers des besoins de financement de l'économie. Les deux autres tiers sont globalement apportés par les marchés financiers via le crédit. En Europe, c'est l'inverse. Deux tiers des besoins de financement de l'économie viennent du secteur bancaire. Donc, c'est vrai que si le secteur bancaire devient plus frileux, ça pourrait être un problème économique en Europe.
Justement, a priori, pas de problème bancaire. On a entendu tous vos arguments pour traiter cette question. Derrière, il y a la question de la vitesse à laquelle s'est propagé aussi tout ça un petit peu. Et si on fait des comparaisons là aussi, les les délais ont été beaucoup plus courts entre les premiers soubresauts et les vraies questions. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une crise financière qui peut s'installer? Et là, ce que disait aussi Vincent est important, c'est-à-dire que tout le monde commence à nous dire ça pourrait coincer du côté du crédit, notamment du crédit aux entreprises, de l'investissement, etc. Est-ce que du coup, on peut se dire bon, ok, pas de problème bancaire, mais comme alors, un parfum de crise financière, Régis.
Alors, est-ce que effectivement les soubresauts actuels du monde bancaire peuvent induire un credit crunch, ce qu'on appelle, pardon pour l'expression, un credit crunch, c'est-à-dire un ralentissement du crédit? Je ne le crois pas non plus personnellement, parce que ce sont vraiment deux problématiques différentes. Ce qui induirait un ralentissement du crédit, ce serait ou un renchérissement spécifique de la ressource, qui est aussi partiellement possible, mais de manière quand même extrêmement modérée, extrêmement marginale, ou effectivement une volonté des banques à un moment donné de réduire leur bilan par manque de capitaux propres. On n'est pas dans cette situation-là particulièrement. On n'a pas de problème d'accès à la ressource. On n'a pas de volonté particulière de réduire la taille du bilan par rapport aux fonds propres parce que, comme l'a rappelé très justement Vincent, la réglementation, entre autres, a fait que les banques, elles sont plutôt en excès de fonds propres aujourd'hui. Hein. Donc, on se retrouverait dans des niveaux... On est dans des niveaux de rentabilité qui seraient affaiblis de manière artificielle. Pourquoi, dans quel but, ça n'est pas très très clair. Donc je ne pense pas non plus que ce soit un risque particulier, d'autant que il y a une possibilité qui n'est pas du tout une certitude et qui n'est pas l'hypothèse que je privilégierais aujourd'hui, mais il y a quand même une possibilité qu'en cas de poursuite de l'instabilité bancaire, finalement ça freine, on va en parler je pense, les banques centrales dans leur volonté de remonter les taux d'intérêt, ce qui aurait plutôt tendance à inciter encore à baisser le coût du crédit. Donc je ne crois pas que ce soit non plus un risque à ce stade, bien que, vous avez raison, c'est immédiatement ce que le marché
a joué, un impact sur les entreprises.
Depuis plusieurs semaines.
Pas de crise financière non plus, Vincent, finalement, la finance va en sortir indemne. Enfin, quand on regarde effectivement le marché, prenons le SPI 500, parce que c'est le plus large qu'on ait sous la main, cette tempête, entre guillemets, lui a fait perdre 1%.
Oui, alors je vais toujours être très prudent dans l'évocation de mes convictions pour les prochains mois à cet égard. Je pense que peu avaient vu cette crise bancaire quand même, en tout cas se arriver cette année. Donc il faut quand même toujours être prudent par rapport à ça. Je n'en vois pas de raison fondamentale à cette crise financière. Les marchés ne me semblent pas avoir pêché par excès d'enthousiasme en ce début d'année. Je pense pas qu'il y ait une détérioration fondamentale. Donc je pense qu'il y a pas lieu, en tout cas, de quitter le navire marché pour l'instant. Nous restons, et je l'ai pu l'évoquer sur BFM Business à de nombreuses reprises depuis début d'année, positionnés de manière défensive dans nos portefeuilles chez JP Morgan Asset Management. Alors pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui le cash, l'obligataire nous rémunère bien et qu'on n'estime pas nécessaire de prendre des risques trop importants sur les marchés d'actions dont on peut s'attendre à ce qu'ils demeurent volatiles au cours des prochains mois. Alors j'attends pas une crise, je reste néanmoins prudent dans la manière dont on déploie nos actifs aujourd'hui en termes de gestion diversifiée. Je suis peut-être un petit peu plus prudent sur les conséquences économiques de ce qui se passe actuellement, notamment pour l'Europe. J'étais très relativement optimiste sur les perspectives économiques à la fois pour l'Europe et les États-Unis en ce début d'année. La plupart des indicateurs économiques finalement venaient alimenter cet optimisme. Et d'ailleurs, les PMI publiés récemment pour un certain nombre d'économies viennent conforter cette idée de résilience en début d'année. Maintenant, lorsqu'on voit les sondages réalisés auprès des institutions financières en Europe et aux États-Unis, on voit que aux États-Unis, 40% des banques signalent resserrer leurs conditions de prêt. En Europe, c'est encore le début, mais on est déjà au-delà de 20%. Donc, inévitablement, je pense que le secteur bancaire va devoir réduire durcir ses conditions de prêt à l'économie et que ça entraînera évidemment un ralentissement de celle-ci. Prudence donc à cet égard. Alors je pense que les banques seront toujours auprès des entreprises qui ont des bons dossiers à proposer. Je sais que chez nous notamment, les banques commerciales, notamment en France, a toujours évidemment pour objectif d'être auprès des entreprises françaises et a toujours une capacité à prêter. Maintenant, ce sera à des conditions évidemment moins favorables que par le passé. Il y aura davantage, plus de discrimination dans les projets à financer. Et les acteurs les plus leveragés, évidemment, éprouveront des difficultés au cours des semaines et des mois à venir. Et je pense que ça, ce sera évidemment un point d'attention pour les mois à venir, à la fois pour les États, pour les entreprises et pour les ménages. Je pense que les investisseurs vont être beaucoup plus regardants par rapport au niveau d'endettement, par rapport aux maturités du crédit des acteurs sur le marché. Et ça donnera lieu à des arbitrages. On voit déjà parfois des difficultés, notamment dans le secteur de l'immobilier pour l'instant. Je pense qu'il faut être vigilant par rapport à cela.
Après, il y a cet impact que vous avez dévoilé tout à l'heure, un petit peu, Régis, ce sont les banques centrales. Elles ont, bon, c'était le hasard du calendrier, étaient au cœur de la tourmente puisqu'elles avaient des réunions au moment où tous les doutes apparaissaient. La BCE, on le sait, a choisi de rester droite dans ses bottes, de faire ses 50 points de base, etc. La Fed a un peu ajusté son tir et tout le monde commence à dire, on est probablement en train, en tout cas à la Fed, d'arriver sur ce taux terminal autour. Et certains commencent d'ailleurs à même spéculer sur des baisses. Ils ont raison, les marchés, de déjà jouer le coup d'après, ouais. De déjà
Il y a deux questions qui se mêlent en réalité, parce qu'il y a effectivement, est-ce que la crise bancaire pourrait amener la Fed, comme par le passé, à finalement baisser les taux à un moment donné, à un moment où elle devrait les monter. On l'a vu dans le début des années 70 dans une situation semblable. On l'a vu surtout en 1997-1998 avec la grande faillite d'LTCM qui avait vraiment fragilisé la finance mondiale et qui avait entraîné la Fed à baisser ses taux à un moment où l'économie accélérait, ce qui a finalement conduit à la bulle spéculative des années 2000. Donc je précise ce point parce que je pense qu'aujourd'hui la Fed est beaucoup plus méfiante sur l'apparition de ces bulles qui sont un peu partout. On a vu d'ailleurs les crypto-monnaies rebondir très très fortement à l'occasion de cette crise, donc déjà anticiper effectivement ces créations possibles de bulles spéculatives. Donc je pense que la Fed sera plus prudente qu'elle ne l'a été par le passé à ce sujet-là. Et puis il y a une autre question, c'est est-ce que effectivement, sur le fond, on est arrivé au bout de cette traîne d'inflation, de cette remontée d'inflation que les banques centrales devaient absolument freiner, hein, si ce n'est casser, mais en tout cas freiner par la remontée des taux d'intérêt. Rien ne le dit a priori, hein. Je veux dire, on a toujours quand même une pression salariale qui est forte, des niveaux de chômage qui sont extrêmement bas en Europe et aux États-Unis, une Chine qui s'apprête plutôt à redémarrer. Donc rien ne dit que l'inflation a été... Alors je suis d'accord avec Vincent sur le financement, notamment dans le private equity, le financement va se renchérir, donc ça peut à un moment donné quand même avoir un impact, freiner un petit peu l'apparition de nouvelles entreprises et une certaine forme de dynamique. Mais pour l'instant, nous n'avons aucun signal que l'inflation est complètement arrivée à son terme et donc qu'on est déjà dans la phase où il faudrait rebaisser les taux d'intérêt. Je pense au contraire que une fois passée cette agitation, nous allons revenir dans le scénario qui était d'une pause longue, voilà, d'un ralentissement de l'économie induit par cette hausse des taux. Alors c'est vrai que cette hausse des taux, elle a débouché finalement sur une crise bancaire, ce qui était tout à fait inattendu parce que au contraire, elle est plutôt favorable normalement aux banques, la hausse des taux. Donc c'est vrai que c'était un petit peu surprenant et relativement imprévisible sans doute, mais je pense que le scénario de fond n'a pas particulièrement changé à l'occasion de cette crise.
Vincent, les marchés ont-ils raison de spéculer ou de croire à une baisse des taux de la Fed cette année ?
Bon, il y a 2-3 semaines, je vous aurais dit non. Autant actuellement, je dois dire que c'est vrai que la crise bancaire change probablement quelque chose, en ce sens que, en tout cas, au resserrement monétaire des banques centrales se juxtapose désormais le resserrement, en tout cas des conditions d'octroi de crédit des institutions financières. Alors que j'étais très optimiste sur le front macroéconomique en ce début d'année, et plus optimiste que le consensus en tout cas des indicateurs conjoncturels avancés. Je dois reconnaître que cette crise bancaire, sans être une crise fondamentale de mon point de vue ou une crise systémique pour le système bancaire, elle a pour conséquence qu'on verra des banques sans doute moins supportrices du cycle économique dans les prochains mois et que dès lors ça plaide pour un ralentissement. Et dans le fait que la BCE nous ont signalé que leur politique monétaire serait data dependent, lisez, elle évoluera au gré de l'évolution des données économiques, dont on peut craindre qu'elle se détériore et qu'on aille potentiellement vers ce scénario d'une récession modérée. Nous verrons, je crois qu'il est prématuré pour l'anticiper. En tout cas, si baisse de taux il y a, ça ne veut pas dire que l'environnement de taux qu'on connaît actuellement va changer diamétralement d'ici là. Je pense qu'on est parti, en effet, que ce soit une pause ou une légère baisse de taux, en tout cas pour des taux directeurs qui restent finalement relativement élevés. Donc le coût du capital restera en tout cas un sujet pour pas mal d'acteurs financiers. Il faudra aussi, nous en tant qu'investisseurs, eh bien justement, comme je le disais, faire attention à ceux qui sont sensibles à ce coût du capital. Et là, il faudra clairement, en tout cas, réduire l'exposition à ce type d'acteurs en portefeuille. Par ailleurs, en tout cas, le fait que les taux sont appelés à rester durablement élevés fait qu'on a un support qui est assez important pour tout ce qui est support cash. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que la crise financière ne me semble pas à l'ordre du jour en Europe, puisqu'on voit qu'il y a une appétence des épargnants européens pour le cash. On le voit notamment avec l'engouement pour le livret A, on le voit pour les dépôts à terme. Les banques européennes attirent aujourd'hui des capitaux, et ces capitaux sont d'ailleurs largement replacés auprès de la BCE. Rappelez-vous qu'on a 4000 milliards d'euros qui sont placés sur la facilité de dépôt de la BCE, et qui sont très rentables pour le secteur bancaire européen, qui ne rémunère pas cette épargne, ces capitaux au taux marginal, au taux de dépôt de la BCE. Donc, attention en tout cas aux acteurs les plus endettés, mais je pense que oui, on pourrait imaginer fin d'année, début 2024, avoir des banques centrales qui ralentissent en tout cas la cadence, voire qui baissent les taux si en effet une récession même modérée devait se profiler à l'horizon.
Juste en un mot pour terminer, Régis, vous aussi, vous pensez que c'est vraiment ces questions de financement, de dette qui vont être un peu la clé de sélection des valeurs ?
Au fameux aphorisme de Warren Buffett, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui n'ont pas de maillot, et on est typiquement dans cette phase-là. Les plus solides, en particulier dans le monde bancaire, vont bénéficier de cette crise, attirer les capitaux vers eux, baisser leur coût de financement relatif par rapport à leurs concurrents. Donc là, c'est vraiment une période qui favorise les plus solides et les moins endettés au détriment des autres.
Merci beaucoup à tous les deux, Régis Béguet pour Lazard Frères Gestion et Vincent Juvins pour JP Morgan Asset Management. Bonne fin de semaine et de séance à tous les deux sur nos marchés. Ce CAC 40 qui s'appuie pour le moment sur les 7100 points, 7103 points. On progresse de 0,35% pour le moment.
Merci.
BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
Dernière demi-heure de BFM Patrimoine, et comme chaque demi-heure, on débute par une virée sur les marchés actions. C'est Romain Daubry et la cellule info d'experts de Bourse Direct qui nous accueille ce matin. Rebonjour Romain.
Rebonjour.
Bon, qu'est-ce qu'on se dit de ce marché qui semble s'appuyer sur les 7100? On a failli craquer, mais non, ça tient pour le moment.
Ouais, un petit support intermédiaire à 7107,5. Toujours cette idée qu'il y a vraiment pas d'initiative. Le contexte d'incertitude fait que les opérateurs sont très en retrait. On le voit dans les volumes, on le voit dans l'intérêt sur les marchés dérivés qu'on évoquait tout à l'heure. Un intérêt qui n'a donc pas été reconduit pour 10 à 15% selon les indices, et peut-être même un peu plus sur certains, après l'échéance des marchés dérivés dans un contexte d'attente. Il n'y a pas énormément de drivers non plus pour nous permettre de déborder des niveaux. Et donc, même si on attend l'indice des prix PCE vendredi, qui est quand même le chiffre de l'inflation le plus regardé par la Fed, et puis avant la séquence des résultats trimestriels des entreprises qui ne commencera pas avant une quinzaine de jours, mi-avril. Donc, un peu situation d'attente dans ce contexte-là. Donc, trading range sur la plupart des indices et sur la plupart des actifs, d'ailleurs. On voit que l'or et l'argent butent sur des niveaux de résistance intermédiaires, consolident un petit peu. S'ils consolident un petit peu, c'est signe aussi de détente éventuellement, même si on constate que parmi les secteurs globalement, les secteurs forts en Europe, à Paris en tout cas, c'est le luxe, clairement, toujours. Et puis la santé, c'est défensif, signe un peu d'aversion risque. Pas beaucoup d'initiatives. On voit aussi que effectivement l'ensemble des pétrolières repaye aujourd'hui à la faveur d'une hausse du pétrole, mais il n'y a pas d'accélération. dans les valeurs du SRD, on a sur 11 valeurs, il y en a 10 qui sont des valeurs liées au pétrole ou aux matières premières. Donc ça montre que voilà, il y a un peu d'intérêt. Ceci dit, on se précipite pas pour rentrer sur les valeurs en question, puisqu'il n'y a pas beaucoup de structures de retournement haussière, ce sont plus des niveaux de support qui sont mis à profit. Et c'est un peu le cas sur l'ensemble des valeurs quand on scanne en détail toutes les valeurs actuellement. Alors ça peut sortir par le haut, ça peut se retourner de façon un peu plus nette assez rapidement, mais pour l'instant c'est un peu incertitude. Donc tant qu'on défend 3810 sur le S&P, c'est plutôt favorable. On voit aussi cette idée peut-être d'accumulation sur le Dow Jones dans une zone qui est située autour de 30, en dessous de 32 000 points, entre 31 600 et 32 200 points. On voit que systématiquement, ces niveaux-là ont été repayés assez rapidement. Puis c'est la même idée qu'on a sur l'indice CAC 40. Tant qu'on est au-delà de et un peu autour de 7 000 points, là, il y a des réactions qui sont un peu fortes dès qu'on passe en dessous.
Merci beaucoup, Romain, pour ces quelques indications, ces quelques seuils à avoir en tête. Romain Dobry, depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Très bonne séance sur le marché. Le CAC 40 qui, lui, grignote 0,35% à 7102 points. L'eurodoll est en ce moment à 1,0816.
BFM Business, BFM Patrimoine, les coulisses du patrimoine.
Les coulisses du patrimoine qui accueillent ce matin Taline Melkonian. Bonjour Taline.
Bonjour
Cédric. Merci d'être avec nous pour l'ingénierie patrimoniale de De Grove Petercam. On évoque ce matin les impatriés, hein, j'ai bien dit impatriés, on parle plus souvent des expatriés, on comprend que c'est l'inverse, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Taline, on peut peut-être justement rappeler de qui on parle.
Donc en effet, c'est exactement le pendant des expatriés. Un expatrié est une personne qui part à l'étranger pour des raisons professionnelles. Et à contrario, un impatrié est une personne qui vient s'installer en France pour des raisons professionnelles. On ne sait pas exactement combien d'impatriés il y a en France chaque année qui viennent s'installer. D'ailleurs, c'est une question ministérielle qui a été posée récemment, puisqu'on est très intéressé de savoir combien de personnes sont dans cette situation-là.
Alors évidemment, on va parler fiscalité, et notamment des avantages qui sont réservés à ces impatriés qui s'installent en France. D'abord, il y a tout un formalisme fiscal à observer quand on arrive en France ?
Alors, en règle générale, lorsqu'on s'installe dans un pays étranger et qu'on change de résidence fiscale, il est quand même opportun de respecter...
De se signaler.
Donc, première étape, c'est déjà de se signaler dans le centre des impôts qu'on l'on quitte, donc le pays qu'on l'on quitte, et après de se signaler là où on s'installe. Ensuite, il y a également un certain nombre de partenaires à prévenir dans le cas d'une installation en France. Je pense notamment aux établissements bancaires, parce que lorsque vous changez de résidence fiscale et que vous venez en France, vous savez qu'en France, on a un certain nombre d'obligations fiscales et il faut s'assurer que l'établissement bancaire qui vous accompagne va pouvoir fournir les reportings nécessaires pour que vous puissiez derrière vous acquitter de vos obligations fiscales françaises. Donc en effet, c'est quand même bien de signaler tant à l'administration fiscale qu'aux établissements bancaires qu'on va changer de résidence fiscale.
C'est ce formalisme qu'il faut un petit peu respecter. Il faut le faire, enfin, ces opérations se font avant d'arriver en France ou une fois qu'on est installé, enfin, que ça peut évidemment jouer un rôle, non ?
Alors, il y a un certain nombre d'opérations qu'il faut absolument voir en amont. C'est-à-dire déjà, typiquement avec l'établissement bancaire, c'est bien de le signaler en amont, de voir exactement quels sont les besoins selon le pays où on s'installe. En l'occurrence, on parle de la France, mais de s'assurer que l'établissement bancaire est capable de vous accompagner, quitte à prendre la décision de changer d'établissement bancaire s'il ne l'est pas. En ce qui concerne l'administration fiscale, là, c'est instantané. Vous les prévenez dès que vous arrivez en France de votre nouvelle adresse.
Mais il y a des avantages. Enfin, on sait que parfois il y a eu des l'exit tax, etc., pour gêner un peu ceux qui voulaient partir. À l'inverse, ceux qui veulent venir, on leur déroule un peu le tapis rouge. Ou...
Alors en effet, on leur déroule le tapis rouge. Vous avez tout à fait raison. Alors, l'exit tax, vous en parlez, sachez qu'on n'est pas les seuls à avoir réfléchi à cette idée et qu'il y a d'autres pays qui ont leur exit tax. Donc déjà, au départ, on peut avoir un exit tax, je pense à l'Allemagne qui en pratique un. Il y a d'autres pays qui le pratiquent, c'est pas une invention franco-française. Mais en effet, lorsqu'on s'installe en France, on peut avoir différents avantages. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une première catégorie d'avantages qui va dépendre réellement du pays de l'où on vient. Donc, je prends au hasard l'exemple de la Belgique dont on a beaucoup parlé dans le cadre d'expatriation. Un salarié qui viendrait s'installer en France pour des raisons professionnelles, lui, va avoir déjà de facto la bonne nouvelle de voir que ses salaires ne vont pas être imposés au même taux qu'en Belgique, puisque les taux d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu, et d'ailleurs les tranches applicables, sont beaucoup plus intéressantes que celles applicables en Belgique. Ça, c'est juste un exemple au hasard. Après, il y a réellement un dispositif qui est très spécifique et qui a été introduit en France en 2003, qui est ce qu'on appelle communément le régime des impatriés. Et c'est là où, en effet, il y a des règles spécifiques qui vont s'appliquer aux personnes qui viennent s'installer en France. La première condition à respecter pour pouvoir bénéficier de ces avantages fiscaux, c'est d'avoir été non-résident fiscal français pendant au moins 5 années civiles.
D'accord.
J'ai parlé de résidence fiscale, je n'ai pas parlé de nationalité. Donc vous, par exemple, si vous partez pendant 6 ans chez CNN présenter une émission business, quand vous reviendrez, vous aurez le droit à ce dispositif-là.
Ah d'accord, réservé aux étrangers. C'est-à-dire qu'un citoyen français qui part s'installer durablement à l'étranger, quand il revient, il peut prétendre au système des impatriés.
Exactement. La condition, c'est 5 années civiles de résidence consécutive à l'étranger. On ne regarde pas votre nationalité. Donc, si vous rentrez, si vous respectez cette condition-là, vous avez un certain nombre d'avantages. Au regard de l'impôt sur la fortune immobilière, par exemple, pendant les 5 années qui vont suivre votre installation en France, vous serez exonéré de tout IFI sur les actifs immobiliers que vous détiendrez à l'étranger.
D'accord.
Donc ça, c'est déjà un avantage qui est très important et qui vaut la peine d'être mentionné. Mais vous pouvez avoir d'autres avantages qui concernent plutôt l'impôt sur le revenu. Mais là, les avantages sont beaucoup plus intéressants et donc les conditions d'application beaucoup plus strictes.
C'est-à-dire
que si vous voulez bénéficier des avantages au regard de l'impôt sur le revenu, il faut réellement que vous soyez venu en France pour des raisons professionnelles. C'est-à-dire que vous y étiez embauché par une société française pendant que vous étiez à l'étranger et que c'est dans le cadre de ce contrat, de cette embauche, que vous déplacez votre résidence fiscale en France. Alors que pour l'impôt sur la fortune immobilière, imaginons que moi je parte à l'étranger pendant 5 ans pour des raisons professionnelles. Après, je décide de ne plus travailler et je viens me réinstaller en France. Là, je pourrais bénéficier de l'avantage impôt sur la fortune immobilière. Pour les avantages impôt sur le revenu, il faudra absolument que j'ai été embauché par une société française à l'étranger.
Ou basée en France, non ?
Basée en France, oui, bien sûr. Ouais, d'accord. Et donc, les avantages dont je vais pouvoir bénéficier au regard de l'impôt sur le revenu, c'est une exonération pendant 9 ans. De 50% des revenus afférents aux activités exercées à l'étranger et une exonération de 50% de tous les revenus financiers que vous pouvez avoir à l'étranger. Donc, par exemple, si vous percevez des dividendes à l'étranger, si vous réalisez des plus-values à l'étranger, eh bien là, vous aurez pendant 9 ans une exonération de la base taxable de 50%. Attention, cette exonération ne concerne que l'impôt sur le revenu. Vous êtes toujours redevable des prélèvements sociaux.
Oui, bien sûr. Bon, on s'est tout dit ou il y a un dernier point à...
Un point qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y a pas de dispositif particulier pour les impatriés en matière de droit de succession, de droit de nation. Sachez néanmoins que lorsqu'on hérite d'un patrimoine, lorsque les résidents fiscaux français pendant moins de 5 ans sur les 10 dernières années et qu'on hérite d'un patrimoine versé par un défunt à l'étranger, là il n'aura pas de fiscalité française.
Voilà tout ce qu'il faut savoir sur ces impatriés. Merci beaucoup d'être venu dans les coulisses du patrimoine. Taline Melkonian pour De Groff Petercam. À très bientôt.
À bientôt, Cédric.
Le marché parisien, lui, il reste pour le moment dans le vert, mais on est peut-être en train de casser ces 7100 points qu'on préservait quasiment depuis ce matin. 7095 points, on progresse de 0,24%.
BFM Business, BFM Patrimoine, les réponses aux questions.
Les réponses à toutes vos questions, c'est notre promesse quotidienne, vous le savez. N'hésitez pas à nous écrire, bfmpatrimoine@bfmbusiness.fr. Et ce matin, pour vous répondre, Sarah Salman. Bonjour Sarah.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous.
Et merci à vous
de nous accompagner,
recevoir.
Avocate. Sarah Salman et avocat. On démarre ?
On est parti.
Allez, c'est Catherine qui vous écrit. Elle divorce et elle souhaite conserver le nom de son époux avec qui elle est mariée depuis 28 ans. Mais voilà, son époux refuse et elle se demande que faire.
Alors déjà, je vais rappeler une évidence, mais que tout le monde ne sait pas. Une femme ne prend pas le nom de son époux. Enfin, une épouse ne prend pas le nom de son époux. Elle conserve son nom de jeune fille et à titre d'usage, elle a le nom de son époux. Donc sur la pièce d'identité,
et d'ailleurs,
il y a
Dupont,
épouse Durand.
Et d'ailleurs, on le constate chaque fois qu'on va voter.
Oui, ou quand on prend l'avion.
Pas, ouais, parce qu'on n'est pas la même lettre.
Ce n'est pas la même lettre. Alors, donc là, il faut savoir aussi que ça peut être dans l'autre sens. L'époux peut prendre le nom de l'épouse. En pratique, je ne l'ai encore jamais vu, mais pourquoi pas. Alors, la règle, c'est que quand on divorce, on perd le droit d'utiliser le nom de son mari. On perd ce droit d'usage. Quelle est l'exception ? 1. L'époux accepte. Bon, je pense que ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que le divorce amiable n'est pas possible parce que s'il y a un dissensus sur le nom d'usage, le divorce amiable n'est plus possible. Deuxième option, l'autorisation du juge aux affaires familiales, ce qui veut dire qu'on se... Donc divorce contentieux. Pourquoi le juge autoriserait que madame continue de porter le nom de son époux ? On pourrait penser la durée du mariage. On le prend en compte pour la prestation compensatoire.
Genre l'habitude, quoi.
Oui, ça fait 28 ans, c'est pas mal en plus. Mal. Moi, maintenant, je fais des divorces, les gens restent mariés 6 mois, donc 28 ans, c'est une belle performance. Eh bien, la jurisprudence a estimé, c'était notamment un arrêt, il me semble, en 2011, rendu par la Cour d'appel d'Angers, que même 39 ans de mariage n'était pas un motif suffisant.
D'accord.
Donc non. Donc quels sont les motifs recevables ? L'unité familiale, par exemple, tous les enfants ont le même nom, et souvent, on le sait Cédric, les enfants ont le nom du père, même si maintenant ça peut évoluer. Deuxième option, enfin il y en a d'autres, mais je vais citer les principales, madame s'est fait connaître pendant sa vie professionnelle sous son nom d'usage. Par exemple, admettons un médecin qui a une patientèle depuis 28 ans, je ne sais pas la profession de Catherine.
Il s'appelle le docteur Trucmuge.
Eh bien oui, ça causerait un préjudice et une confusion dans l'esprit du patient. Donc ça, c'est quelque chose qui est compréhensible. Mais cet usage peut être limité dans le temps. Admettons, déjà des jurisprudences ont été rendues, limitées jusqu'à ce que les enfants soient majeurs. Donc, il faudra quand même faire cet effort de démonstration pour pouvoir en bénéficier et obtenir l'accord du juge d'affaires familiales.
Par exemple, en cas professionnel, jusqu'à la retraite, quoi.
Oui, alors en général, quand c'est professionnellement, si madame, bon, je ne sais pas quel âge a Catherine, mais si elle a 40 ans et qu'elle exerce en tant que médecin...
57 ans.
On ne va peut-être pas parler de la réforme des retraites, mais en général, ça peut être illimité. Après, ça dépend aussi des rapports entre les époux, parce que par exemple, il y a des époux qui ne veulent vraiment pas, qui en font une affaire de principe, et d'autres qui disent, bon, bah, finalement, pourquoi pas. Donc les enfants, en tout cas, on le prend en compte. Ça, il faut aussi le savoir.
Là, visiblement, le mari de Catherine ne veut pas. Si elle passe outre, et qu'elle continue alors que son mari n'a pas donné son autorisation.
Et que le juge ne l'a pas donné non plus.
Oui, voilà.
Alors, quand on a une interdiction juridique, ce qui est bien, c'est de respecter l'interdiction. C'est quand même mieux de se soumettre à l'interdiction. Eh bien, si on le fait quand même, ce ne sera pas la seule à le faire. On pourrait se voir interdire de le faire éventuellement sous astreinte, c'est déjà arrivé, voire verser des dommages-intérêts parce qu'il y a une faute, on n'a pas respecté une interdiction, mais il faudrait aussi qu'il y ait un préjudice. Donc en faire mauvais usage et un lien de causalité entre les deux. Mais si jamais, le mieux c'est toujours la négociation, parce que ça dépend aussi de l'usage qu'on veut en faire. Mais si c'est pour en faire, entre guillemets, un bon usage, ou parfois c'est la nouvelle femme du mari qui ne veut pas que l'ancienne continue de le porter.
Qui veut être la seule.
Qui veut être unique.
Allez, question de Yves. Lui, il a divorcé il y a 2 ans avec son épouse. Il regrette et il souhaite faire annuler le divorce pour être de nouveau marié avec elle. Et il se trouve que cette épouse est d'accord.
Tant mieux.
C'est possible ?
Alors, on peut faire annuler un mariage sous des conditions très strictes. En pratique, c'est très rare. Faire annuler un divorce, ça me paraît compliqué. Ou alors, il faudrait un divorce par consentement mutuel contresigné par acte d'avocat. Qu'il y ait, par exemple, un vice du consentement. Ouais. Une erreur, un dol, que ça a été signé sous la violence. Là, comme ça, vu les éléments que j'ai, ça me paraît difficile de faire annuler... De se remarier de cette façon. Le plus simple, on va quand même donner une solution, c'est de se remarier.
Ah oui.
Et il y a des gens, je ne vais pas citer de nom à l'antenne, mais il y a des gens très connus qui l'ont fait, qui divorcent, qui ont d'autres aventures et qui se remarient. Donc ce n'est pas quelque chose non plus d'extraordinaire. Prenez une carte de fidélité chez l'avocat, ça fait toujours plaisir. Faut aussi penser à nous. Ouais. Mais plus sérieusement, il peut
se... On refait une liste de mariage.
On refait tout, liste de mariage, les invitations, etc.
Surtout mais on si repart on a brisé la vaisselle au moment du...
J'avais vu un arrêt d'ailleurs, c'était aux États-Unis, il me semble, où ils avaient coupé la vaisselle en deux pour partager, couper le canapé, tout. Bref, c'est anecdotique.
Heureusement, il n'y avait pas de chien.
Oh, Cédric. Et plus sérieusement, on repart à zéro. Admettons, monsieur avait versé un devoir de secours, une prestation compensatoire. Eh bien, prestation pour le prochain divorce, s'il y a, on ne va pas le souhaiter, mais on ne sait pas, on repart de zéro. Ça veut dire qu'on ne prend pas en compte le premier mariage, peu importe si c'est avec la même personne. Oui. Ce sont deux mariages différents, avec certes la même personne. Mais bon, vous voyez, c'est là où la séparation de corps aurait peut-être été plus... Pu être
pertinent. On en parlait la dernière fois.
On en avait parlé, je crois, peut-être pas la fois d'avant, mais encore d'avant. Et ben là, ça aurait été pertinent. On reprenait la vie commune, on n'avait pas à refaire le mariage, les frais du mariage, parce que ça coûte assez cher une cérémonie. Donc, on repart effectivement à zéro. Mais toutes mes félicitations à Yves, cela étant.
Question de Daniel. Il a été condamné au versement de 100 000 euros de prestations compensatoires il y a 3 mois. Et il n'a toujours pas payé et il se demande ce qu'il risque.
Alors, la prestation compensatoire, c'est ce qui vise à compenser la disparité de niveau de vie causée par la rupture du mariage. Donc, c'est en cas de divorce. Soit c'est à l'amiable, soit c'est devant le juge. Manifestement, ce n'est pas à l'amiable. Soit c'est en capital, donc une fois 100 000 euros. Donc, mais le juge, s'il a décidé que c'était en capital, il a pris en compte la situation pécuniaire des uns et des autres.
Oui, c'est ça.
Soit capital échelonné sur une durée qui, en principe, n'excède pas 8 ans, ou alors un panachage des deux. Donc, il n'a pas payé, qu'est-ce qu'il risque? Madame ou monsieur, je ne sais pas, va essayer de récupérer cette somme et aura bien raison. Deuxième risque, risque pénal, on en avait parlé l'autre fois pour le non-paiement de la pension alimentaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, délit d'abandon de famille. Il pourrait être poursuivi pour délit d'abandon de famille, délit qui est réprimé par une peine allant de 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Alors, il y a des conditions, bien sûr, mais l'idée, c'est de ne pas s'engluer dans l'impayé. Il y a deux solutions. Soit vous n'avez pas envie de payer. Bon, là, je vais vous dire, vous exécutez ce qu'on vous dit de faire, c'est pas un motif.
Ouais, c'est ça, ouais.
Soit vous ne pouvez pas, vous cherchez à discuter de façon amiable, mais dire j'ai pas payé, je ne fais rien, plus on est englué dans l'impayé, plus ça s'aggrave.
Donc, mais justement, vous rappeliez au départ que les conditions financières de cette prestation compensatoire, elles avaient été décidées en toute connaissance de cause par le juge. Donc, entre guillemets, il a dû voir que Daniel disposait de ses 100 000 euros pour...
Non,
pour
ou alors c'est versé en capital. Ça peut être, par exemple, sur 8 ans ou même sur 4 ans ou allons même sur 2 ans.
Et si les choses ont changé, s'il s'est acheté une voiture...
Il y a 3 mois... si je s'est acheté une voiture, je ne suis pas sûre que ça plaise beaucoup au juge.
D'accord.
Il a 100 000 euros. S'il a mis les 100 000 euros dans une voiture au lieu de payer sa prestation compensatoire,
ça ne va pas le faire.
Ça va être compliqué. Bon. Ça va être compliqué.
Et du coup, donc il faut qu'il paye.
Oui, et je lui conseille vivement.
On peut lui trouver une raison d'être heureux, par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il aura
une raison d'être heureux de payer 100 000 euros.
Oui, je ne sais pas, est-ce qu'il aura un bénéfice fiscal.
Ah oui, alors oui. Mais bien sûr.
Ah bah voyez que je cherche la petite bête.
Alors oui, quand on paye une prestation compensatoire, on peut le mentionner sur sa fiche d'imposition, sa déclaration d'imposition annuelle. On a chacun une déclaration séparée quand on divorce et il y a un bénéfice fiscal. Encore faut-il payer, parce que si jamais il déclare qu'il a payé 100 000 euros et qu'il ne l'a pas fait, donc il va avoir des problèmes avec son ex-conjoint et avec les impôts. Peut-être qu'on pourrait éviter de cumuler, de multiplier les difficultés. Donc l'idée, c'est qu'on paye.
Hein.
Oui, après, ça nous fait du travail, mais quand même.
Bon.
Quand même, donc il faut d'abord payer, ensuite déclarer.
Et après,
déclarer.
On a un bénéfice fiscal. Bon.
Oui, mais pas là. On ne met pas sur les impôts qu'on a payés si ce n'est pas le cas. Je le déconseille vivement.
Allez, on passe à cette question qu'Agathe vous envoie. Elle souhaite accoler le nom de sa maman au nom de son papa et elle se demande si elle peut le faire tranquillement ou s'il faut un certain formalisme. Est-ce que notamment il faut passer par un avocat?
Alors c'est une question intéressante parce que depuis juillet 2022, la procédure a énormément évolué. Avant, c'était très compliqué. Il fallait passer devant le garde des Sceaux. Il y avait publication journal d'annonce légale. C'était assez complexe. Maintenant, c'est mairie du lieu de naissance ou de domicile. Il suffit de se déplacer et surtout sans avoir à justifier, à motiver sa demande. Donc ça, alors qu'avant, soit c'était en nom d'usage, loi de 85, soit pour le changement de nom stricto sensu, c'était une procédure longue et complexe. Donc là, il faut se déplacer, rapporter les documents nécessaires qui sont purement administratifs, délai de réflexion d'un mois, mais, parce qu'il y a toujours un mais, il faut utiliser cette procédure maximum une fois dans sa vie. Enfin, on peut, il faut l'utiliser maximum une fois dans sa vie. Donc ça, oui, c'est possible et... Ah oui, la question, non, c'est pas nécessaire de prendre un avocat pour cette procédure.
Donc ça, ça équivaut à un changement de nom, quoi. Là, elle veut accoler les deux noms, mais si, raison ou pour une autre, elle voulait supprimer le nom de son...
Elle peut switcher, c'est-à-dire qu'elle peut enlever le nom de son père et mettre le nom de sa mère. Elle se retrouve finalement avec le même choix que ce que ses parents avaient à la naissance. Alors qu'avant, il y avait, j'ai plus les statistiques, mais beaucoup de gens qui passaient par la procédure complexe faute de choix, juste pour ça, alors que c'était...
Ouais.
Bon, on peut encore comprendre, c'est un changement de nom, mais c'est pas, elle garde, c'est le nom de ses parents, finalement.
Et on choisit le nom qu'on veut. Enfin, Jérôme, on peut carrément changer de nom, prendre un nom qui n'est pas dans la famille ou...
Alors un vrai changement de nom stricto sensu. Alors déjà pour un vrai changement de nom, généralement il y a plusieurs. Il faut fournir un motif légitime. C'est pas cette procédure. C'est devant le garde des sceaux. C'est francisation du nom, nom injurieux, nom ridicule. Vous pouvez choisir. Généralement on va modifier un peu le nom, mais c'est pas. Vous pouvez pas arriver et dire.
Ah, donc entre guillemets. Donc si on
ça,
veut.
Sinon
juste...
ça s'appelle un pseudonyme.
Oui, si on veut juste switcher les noms de famille.
De ses parents.
C'est très simple. En revanche,
c'est,
si on.
C'est simple.
Si c'est, ouais.
Si c'est un changement de nom stricto sensu.
C'est plutôt l'ancienne procédure.
Ah, c'est l'ancienne procédure. Ouais. Il faut fournir un motif légitime. Alors, le Conseil d'État de mémoire en 2014 avait reconnu le motif affectif, c'est-à-dire pour des raisons, mais il fallait quand même motiver sa demande. Alors après, si je peux citer un exemple, bon, c'était en Belgique, mais c'est juste pour que nos téléspectateurs mesurent ce qui est un nom injurieux. C'était une famille qui s'appelait Clette et qui avait appelé leur enfant Lara. Donc bon, c'est sûr que la jonction des deux n'est pas forcément très pertinente. Et les parents, manifestement, n'avaient pas vu, et l'officier d'état civil a vu qu'il y avait une difficulté. Donc ça a pu être rectifié avant de passer par la procédure de changement de nom. Mais en tout cas, pour l'ancienne procédure, il faut faire la démonstration d'un intérêt légitime, et c'est une procédure qui est longue et complexe et parfois incertaine.
Voilà donc, Agathe, vous savez tout pour cette procédure qui sera donc pas si compliquée pour elle.
Oui, mais il faut quand même, c'est une fois sa vie, donc j'invite quand même les gens à réfléchir parce qu'une fois que c'est fait, c'est un peu plus compliqué si on veut le faire une deuxième fois.
Émeric, à 41 ans, il veut savoir comment faire pour faire bénéficier à son fils cadet de la quotité disponible.
Alors, on va déjà rappeler ce qu'est la quotité disponible. C'est la part dont on peut disposer librement. On peut la mettre en miroir avec la réserve héréditaire, qui est la part minimale qui revient à chaque héritier, hormis les cas d'indignité successorale. Donc, on en avait parlé, il me semble, une fois, mais ce sont des cas très rares.
Alors, comment si on assassine ses parents, quoi, en gros.
Oui, alors après, c'est un peu plus subtil que ça, mais c'est en tout cas,
non, mais ce sont voilà, des conditions. C'est un truc grave, quoi.
Assez grave. Après, il y avait indignité successorale facultative automatique. Comment faire concrètement? Eh bien, rédiger un testament. Si vous le faites de façon orale, ça ne suffit pas. Les directives anticipées, ce n'est pas fait pour ça. Donc, testament, soit holographe daté signé de la main du testateur, soit authentique avec le concours d'un notaire. Et c'est mieux parce que c'est centralisé au sein d'un fichier. Testament mystique, c'est un peu plus particulier. Donc, c'est tout à fait possible. Il n'y a pas besoin de se justifier. Et il est possible de changer d'avis ultérieurement. Ça veut dire que ce n'est pas définitif. Voilà. Mais on peut faire bénéficier de la quotité disponible. Mais c'est toujours mieux, je pense, de prendre conseil auprès d'un notaire pour savoir dans quelle proportion. Parce que c'est ça la question. Et bon. Pas besoin de fournir de motif.
Bon, il nous restait plein de questions, mais le chrono a filé très très vite, Sarah.
C'était tellement passionnant.
Sarah Salman, donc, pour répondre à toutes vos questions ce matin, dans un instant. C'est Sandra Gandoin, deuxième non-erreur entre Sarah et Sandra.
Oui, c'est vrai.
Je deviens champion du monde.
C'est magnifique.
On vous retrouve donc pour 90 minutes business. Qu'est-ce que vous nous proposez ce midi?
On va revenir sur les comptes publics qui sont finalement un peu moins dégradés que prévu l'an dernier. On va en parler avec Thomas Asportas et avec Jean-Marc Daniel qui est avec nous comme tous les jours. On parlera de mobilité et de stations de recharge électrique avec Alain Roland, le directeur général de Station E, qui sera notre invité. Et puis, on reviendra sur la suite pour l'agriculture en France. Vous savez que c'est le congrès de la FNSEA cette semaine, la fin du mandat de Christiane Lambert. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, de quoi notre agriculture a besoin, c'est mieux
c'est
dans ce sens-là.
Comme le tiercé, voilà. C'est mieux dans l'or.
Et ce sera à 12h45 dans notre débat, Cédric.
C'est à suivre dans un instant. Le CAC lui se montre hésitant. Il s'est posé là où on l'a laissé hier soir, 7082 points. Et nous, on se retrouve demain matin à 10h. Très bonne journée.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.